Bienvenue, mes frères. Comme je l'ai dit, c'est merveilleux de voir tout le monde. Tout le monde passe un moment merveilleux et, comme nous l'avons entendu dans la sermonette, il y a des rires, de l'humour et de la joie. Commençons donc. Permettez-moi de vous demander ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Eh bien, ce qui me fait plaisir, c'est de voir les frères participer à l'une de mes plus grandes joies, une activité à laquelle je participe chaque fois que c'est possible, chaque fois que j'en ai l'occasion. Lorsque j'assiste à cette activité, mon cœur bondit, et un sentiment d'excitation et d'émerveillement m'envahit. J'ai comme un frisson qui s'empare de moi. J'ai été témoin de cela avant la fête. J'en ai été témoin le premier, le deuxième et maintenant le troisième jour de la fête, et j'en suis vraiment bouleversé. Et encore une fois, mon cœur continue de se gonfler et de bondir lorsque je vois cette activité. De quoi est-ce que je parle? De quoi est-ce que je parle? Je parle de construire, de bâtir, de créer quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que je... Je veux dire que c'est un vaste sujet. Ouvrez donc votre Bible au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Commençons par préciser ce dont il s'agit. Nous commencerons le chapitre 2 des Actes, pour un peu de contexte, je suppose, au verset 28. Le verset 28. Il est dit, 1. D'accord, alors Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous passons ensuite au verset suivant, qui définit le contexte. Passons donc au verset 42. Nous allons avoir ce point plus précis maintenant. « Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Avez-vous vu les plans du projet de construction dans ces Écritures? Il s'agit de la communion, mais j'ai récemment entendu une étude biblique lors d'une visite à laquelle j'ai eu la chance de participer, au cours de laquelle j'ai découvert quelque chose que j'ignorais, et vous ne le savez peut-être pas non plus, la définition de la communion dans ces Écritures. Littéralement, il y a quatre fois différentes. Je crois que c'est quatre fois dans le Nouveau Testament où le mot « communion » est utilisé, et elles sont toutes dérivées de cette définition principale. La communion signifie le partenariat. Pensez-y. Si vous voulez faire de la communion, eh bien, faisons de la communion. Vous pourriez tout aussi bien dire « établissons un partenariat, créons une association ». Les autres définitions sont toutes liées à cela. Il s'agit de partage, d'association et de participation. Ils sont tous liés à la notion de partenaire. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, mes frères. J'ai parlé de construire, vous savez, nous ne construisons pas des avions. Le mien ne volerait pas très loin, mais nous ne construisons pas seulement des partenariats non plus. Attendez une minute, je pensais que vous aviez dit que nous construisions des partenariats. Non, mes frères, nous construisons des partenariats éternels. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour cela que nous sommes ici à la fête, pour apprendre à construire des partenariats éternels. Nous allons maintenant examiner différentes manières, différents moyens. Nous commençons par quelques qualités des partenaires, des bons partenaires. Vous pouvez mettre ceci devant. Vous pouvez mettre les bons partenaires devant ces mots. J'en ai marqué quelques-uns ici. C'est un bon partenaire qui vit le don de soi. C'est aussi un partageur, qui est un des mots de la définition de la fraternité. Donc, un bon partenaire vit le don de soi. Les bons partenaires inspirent, motivent, soutiennent, servent, enseignent et sont capables d'enseigner. Si vous avez un partenaire qui ne veut qu'enseigner à l'autre, Ce n'est pas vraiment un partenariat. C'est une voie à sens unique. Les partenariats vont dans les deux sens. Les bons partenaires sont donc capables d'enseigner et d'être enseignés. Les partenaires ont des objectifs et des espoirs communs. Ils croient l'un dans l'autre. Ils se font confiance, se serrent les coudes, vont dans la même direction. Ils sont proches, ils ont un lien commun, ils ont cette confiance, et ainsi de suite. Créez votre propre liste. Que recherchez-vous chez un partenaire? Que recherchez-vous dans quelque chose qui vous donne envie d'être à nouveau en communion, d'être partenaires les uns avec les autres, avec les membres de votre famille, avec Dieu, avec Jésus-Christ? Eh bien, mes frères, allons un peu. Ce sera un point sur lequel nous pourrons revenir plus tard. Passez au chapitre 1 de Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens 1, verset 17. Je vais donner un. Voici un outil qui va nous aider, dans notre partenariat. Colossiens 1, verset 17, il est dit, il. À propos de Dieu. Il est avant toute chose et par lui, toute chose subsiste. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce passage, et vous savez de quoi il parle. Toutes les choses existent grâce à Dieu. Cela signifie qu'il n'y aurait rien qui soit composé de deux morceaux de quoi que ce soit si Dieu ne maintenait pas ces deux morceaux ensemble. Et cela va de l'univers à la plus petite structure atomique. Ce qui maintient ces deux et multiples pièces ensemble, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit. C'est la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui tient, qui lie tout ensemble. C'est la même chose qui maintient les partenariats ensemble, c'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes des pierres vivantes construites ensemble, disons des partenaires, avec Christ comme pierre angulaire principale, maintenue ensemble par la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrions avoir aucun partenariat avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec nous, avec quoi que ce soit, parce que toutes les choses sont maintenues ensemble par la puissance de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut assimiler. Nous avons beaucoup appris ici, ces dernières semaines, sur le mystère de Dieu. Eh bien, c'est quelque chose qui, je l'espère. Combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Frères et sœurs, pour que ces partenariats soient construits, maintenus et développés, une fois de plus, l'Esprit de Dieu doit être présent en tant que puissance liant et maintenant chaque pierre ensemble. Des questions naturelles se sont donc posées, du moins dans mon esprit. Nous allons donc. Je vais lire ces trois questions, puis nous allons les développer. Tout d'abord, avec qui sommes-nous partenaires? Vous pourriez être surpris, au moins sur l'un d'entre eux. Deuxièmement, comment construisons-nous, entretenons-nous les partenariats? Et troisièmement, pourquoi? Pourquoi construisons-nous ces partenariats éternels? Pourquoi? Pourquoi faisons-nous cela? D'accord. Commençons à répondre à la première question. Avec qui sommes-nous partenaires? Eh bien, je pense que vous pouvez deviner par qui nous allons commencer. C'est Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ. C'est avec eux que nous commençons nos partenariats. Mais, frère, quand ce partenariat a-t-il commencé? L'avons-nous commencé? Veuillez ouvrir vos Bibles et vous reporter au chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. Nous allons voir quand ce partenariat a commencé et qu'il a commencé. Éphésiens, chapitre 1. Nous commençons au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous ait bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption, à la filiation d'enfant par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons associés à lui en tant qu'enfants, en tant que ses fils, en tant que ses filles. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je n'étais pas là avant que les fondations de la terre ne soient posées. Levez la main, qu'il était. C'est bien. J'allais dire que si ce n'est pas le cas, nous allons appeler le livre Guinness des records pour obtenir des noms et faire prendre des photos. Nous n'avons donc rien à voir avec cela, n'est-ce pas? Nous n'avons rien fait, je n'ai rien fait. Je n'ai rien à voir avec le fait que Dieu m'ait choisi. Vous n'avez rien à voir avec le fait que Dieu vous ait choisi. Mais devinez quoi? Il nous a choisis. Il nous a choisis pour un partenariat éternel avec lui, avec son Fils, avant toute chose. Avant tout. Continuons à regarder cela. Passez à Jean, s'il vous plaît, chapitre 17. Jean chapitre 17, nous reprendrons au verset 21. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et que la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaits en un seul et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je n'ai fait qu'y penser. Je n'ai pas pensé à mettre en boîte tout le temps où Christ a dit un, pour être un. Repensez à certaines des qualités que j'ai mentionnées tout à l'heure à propos, vous savez, des qualités, vous savez, des partenariats. Les bons partenaires sont ensemble. Ils sont liés, ils sont proches. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais vous ne pouvez pas être plus proches qu'un seul. Deux personnes qui ne font plus qu'une, on ne peut pas être plus proche que cela. Et c'est ce que Dieu veut. Tout comme le Père est un avec son Fils en ce moment même dans les cieux, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons pareils. Et nous sommes ici pour apprendre à le faire. Nous sommes ici pour être, pour nous enthousiasmer à ce sujet. Comme je l'ai dit, lorsque je vois des gens construire ces partenariats, cela me fait froid dans le dos. Parfois, j'aime m'asseoir et regarder. Mais c'est formidable, alors merci. Vous m'avez apporté beaucoup de joie. Comme nous l'avons également entendu, cela fait partie du rapprochement. C'est ce que nous avons entendu dans la sermonette. Cette joie, ce bonheur. Comme nous l'avons dit, la fondation de ce partenariat entre nous, le Père et Jésus-Christ a commencé avant toute chose. Nous n'avons pas participé à sa construction. Dans l'édification initiale de cette fondation, voici en quelque sorte cette étape. Puis Dieu, et il dit qu'il nous a prédestinés. Il a choisi, d'accord, cette personne va venir à cette époque, et à cette époque. Frères et sœurs, Dieu nous a prédestinés à être dans cette dernière ère. Pour être dans ce petit troupeau, pour être ceux qui peuvent aller en premier. Réjouissez-vous de cela. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Aucune autre époque n'a jamais eu cette opportunité, ce partenariat dans le temps. Nous. Réjouissez-vous. L'étape suivante est celle où Dieu nous appelle. C'est notre première occasion de dire, « Hé, je peux faire partie de cela et construire ce partenariat. » Avant cela, nous ne savions pas. Pensez à la période qui a précédé votre appel. Je sais que lorsque j'ai été appelé, je ne savais rien. Je ne peux pas dire, j'espère que j'en sais un peu plus maintenant, mais je ne savais rien. Mais jusqu'à ce que Dieu commence à ouvrir nos cœurs et nos esprits et nous dise, « Hé, je veux m'associer avec vous », nous ne savons pas ce qui se passe. L'étape suivante est la justification. Devinez ce qui s'ajoute alors. L'agent de liaison, l'Esprit de Dieu. C'est au moment du baptême. C'est là que Dieu nous donne son esprit. C'est à ce moment-là que nous avons ce pouvoir de Dieu en nous, qui nous lie à lui, à son Fils et à ses autres partenaires à ce moment-là. Il reste encore une étape à franchir. Nous n'en sommes pas encore là. Nous n'avons pas eu à le voir de loin. Nous la voyons juste au coin de la rue. Et c'est là qu'il faut se glorifier. C'est à ce moment-là que nous entrons vraiment dans ce partenariat éternel en tant qu'êtres éternels. Voilà, mes frères, les différentes étapes que Dieu a entamées et qu'il poursuit aujourd'hui avec ses partenaires. Veuillez maintenant vous reporter à 2 Pierre 3:18. Je vais continuer à examiner ce même point avec ce partenariat avec Dieu et Jésus-Christ est une étape en deux parties. Appelons cela un processus en deux parties. Nous savons que c'est Dieu qui commence. Il y a un moment où nous devons intervenir pour continuer. 2 Pierre 3:18. Aïe. J'espère que j'ai dit les bonnes écritures avant. Il est dit, mais que la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ croissent, et que la gloire lui soit rendue maintenant et à jamais. Amen. La grâce. Voilà un autre mot dont je n'avais jamais vraiment su ce qu'il signifiait jusqu'à ce que je le recherche. Voyons d'abord la définition. Tout d'abord, il s'agit d'une attitude ou d'un acte gracieux. D'accord, c'est merveilleux. C'est une partie de la définition. Cela ne met pas vraiment l'accent sur un point précis. Si vous continuez à lire, le mot suivant dit, en particulier. Cela devrait vous mettre la puce à l'oreille dans une définition sur un sens, surtout l'influence divine sur le cœur et son reflet dans la vie. Il y a deux êtres divins, le Père et Jésus-Christ. Considérez la grâce comme l'influence divine qu'il exerce sur notre cœur en nous choisissant comme partenaire, et notre rôle est de refléter cette influence dans notre vie. Ce système en deux parties. Si nous ne sommes pas prêts à faire notre part, cela crée un fossé. Il n'y a pas d'unité, nous devons la refléter. Dans ce cas, il est question de Jésus-Christ. Eh bien, devinez qui Jésus-Christ reflète, est un reflet du Père. Le reflet du Père. Assurons-nous que c'est bien le cas. Veuillez vous reporter au chapitre 14 de Jean. Nous commencerons au verset 8. Le récit avec Philippe. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et il nous suffira. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et vous, comment dites-vous, montrez-nous le Père ?» Jésus-Christ est le reflet divin de l'autre être divin. Nous sommes censés refléter Jésus-Christ, et lorsque nous reflétons Jésus-Christ, devinez qui nous reflétons. C'est-à-dire que nous devenons le reflet, l'image miroir du Père. Cela nous relie à l'unité dont Christ parlait au Père. Ils sont un comme nous sommes un. Si l'on est un, on ressemble un peu à l'autre. Certes, nous sommes tous un peu différents, mais ce qui compte, c'est notre cœur, c'est notre objectif, c'est l'amour que nous avons. C'est cela l'unité, mes frères. C'est cela l'unité, et nous devons faire notre part. Le christianisme est un mot d'action. Nous ne pouvons pas nous asseoir et laisser les choses se faire. Nous devons participer. Nous savons qu'il y a ceux qui écoutent et ceux qui agissent. Nous devons être les deux. Nous avons reçu l'ordre d'être les deux. C'est ce qui nous est ordonné. Poursuivons donc notre chemin. Voyons une autre façon d'établir un partenariat avec le Père et le Fils. Tournez. Restez dans Jean, Retournez au chapitre 10. Retournez au chapitre 10. Le chapitre 10, nous commencerons au verset 27. 27. Jean 10, verset 27. Il est dit, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Réalisez, mes frères, que l'un de nos pieds en ce moment, ses partenaires, est dans la main de Jésus-Christ et que l'autre de nos pieds est dans la main du Père. Pourrions-nous être en de meilleures mains? Quelle est cette compagnie d'assurance avec des mains? Non. Nous avons ici un meilleur groupe d'assurance, le Père et le Fils. Tout au long de ce texte, Christ parle de la vie éternelle. C'est un partenariat éternel. Il termine en disant qu'il est à nouveau un, que lui et le Père sont un. Ils ne sont pas séparés. Il n'y a pas de fossé. Il n'y a pas de schisme. Ils sont un. Ils ne font qu'un. C'est donc une autre façon de penser à nos pieds dans les mains du Père et du Fils. Je pense que mon... Je ne pense pas que je vais glisser. Si nous tombons de là, eh bien, ils ne sont pas... La seule façon dont nous pouvons quitter ses mains, c'est si nous sautons. Ne sautez pas. Restez dans leurs mains. D'accord. Un autre moyen est de marcher avec Dieu. Veuillez vous reporter au chapitre 6 de la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième Corinthiens, chapitre 6, verset 16. Verset 16. Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et je marcherai en eux. Je serai leur Dieu, et ils seront miens. N'est-il pas réconfortant de savoir que Dieu est en nous, qu'il marche en nous? On ne peut pas dire qu'il marche avec nous. Il est en nous et nous marchons. Devinez qui marche avec nous? C'est le Père, et en nous appelant, nous sommes son temple. Et il vit dans son temple. Nous sommes ce temple, mes frères, et si quelqu'un partage une maison avec quelqu'un d'autre, un appartement, si vous partagez une chambre, beaucoup de gens partagent des chambres, vous savez, il faut, pour revenir aux descriptions que j'utilise, il faut un peu de sacrifice. Il faut rendre service. Il faut un partenariat, même pour habiter temporairement avec quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu habite avec nous depuis qu'il a mis son esprit en nous, et nous devons faire notre part. Nous devons faire notre travail pour nous assurer que ce partenariat se développe et se renforce parce que Dieu ne va pas le rompre. C'est seulement si nous le choisissons. Ne choisissez pas cela. Vous êtes dans un endroit merveilleux. Nous sommes tous dans un endroit merveilleux. Ne l'oubliez pas. Nous en avons un autre ici. Passez au chapitre 26 du Lévitique. Le chapitre 26 du Lévitique, toujours à propos de la marche avec Dieu. Verset 12, 26, 12. Le Lévitique dit, « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Nous savons que c'est une scène qui va se dérouler très, très bientôt. Nous savons que Dieu va marcher au milieu de son peuple. Nous sommes son peuple. Il va marcher parmi nous. Mes frères, le monde entier aura aussi cette opportunité. Le monde entier l'aura. Et Dieu nous le promet, nous le dit ici même, et c'est le chapitre des bénédictions et des malédictions. Voici donc l'une des bénédictions que Dieu promet. Tant que nous ne sautons pas des mains qui nous tiennent, nous pourrons marcher avec le Père et marcher avec Jésus-Christ en tant que partenaire, en tant que partenaires éternels, en tant que fils, en tant que fille, en tant que ses enfants pour l'éternité. Très bien, regardons un autre aspect. Le berger et les brebis. En voici un que j'ai remarqué il y a longtemps. C'est probablement, en ce qui concerne l'Ancien Testament, l'écriture la plus citée, le psaume 23, 1. Tournez-le si vous voulez, et vous le connaissez probablement par cœur. Il y a un mot là-dedans. Je n'avais jamais vraiment regardé jusqu'à il y a quelques années, et cela a tout changé pour moi. Le psaume 23, 1 dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Eh bien, ce mot « ne pas vouloir » ne signifie pas « ne pas vouloir », car, d'accord, je peux vouloir un yacht. Je pourrais vouloir 3 nouvelles voitures et un hélicoptère. Eh bien, je n'obtiendrai pas tout cela. Je n'en ai pas besoin. Vouloir signifie manquer. On ne manque pas de désir, on manque de besoin. Donc, ce que c'est. Si vous lisez ce que dit l'Écriture, si nous ne voulons manquer d'aucun besoin, nous devons faire de Dieu notre berger. Si nous faisons de Dieu notre berger, il n'y aura pas de besoin qu'il ne comblera pas. Promesse de Dieu, promesse de Dieu. Nous devons être ses brebis. Nous savons que le Père et Jésus-Christ sont tous deux des bergers. Nous devons donc nous assurer qu'ils sont tous deux notre berger. Si nous le faisons, nous n'avons plus besoin de rien. Nous ne nous rendons peut-être pas compte que nous n'avons pas besoin de cela, mais Dieu sait ce dont nous avons besoin. Nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Très bien, revenons à Jean, au chapitre 10. Nous continuons à examiner l'aspect du partenariat avec le Père et le Fils. Chapitre 10, nous reprenons au premier verset. Chapitre 10, verset 1. Il est dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre chemin, c'est comme un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. C'est à lui que le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses brebis par leur nom et les fait sortir. Il appelle ses brebis par leur nom et les conduit dehors. Quand il fait avancer ses brebis, il les précède, et les brebis le suivent. Car elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Descendez rapidement au verset 7. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Frères et sœurs, nous sommes les brebis. » Jésus-Christ, dans ce passage, est ce berger. Il dit qu'il va rester avec nous. Il ne nous laissera pas sans berger. Maintenant, il y a ces brebis errantes qui s'en vont d'elles-mêmes. Nous y reviendrons. Il dit qu'il ira devant nous, qu'il préparera le chemin, qu'il s'occupera de tous les dangers devant nous, qu'il pourvoira à tous nos besoins afin que nous ne manquions de rien parce qu'il est le berger de ses brebis. Frères et sœurs, je vois une chaise pleine de brebis qui peuvent s'asseoir, ou une salle pleine de brebis, qui peuvent s'asseoir sur des chaises en ce moment. C'est incroyable. Et nous devrions appeler le livre Guinness des records pour cela aussi. C'est joli, c'est un site merveilleux, je le reconnais. Donc, le berger et l'aspect des moutons. C'est une autre façon de s'associer et Dieu nous a choisis pour nous associer et nous promet de le faire avec lui et son fils. D'accord, revenons-y. Voici une autre chose à laquelle il faut réfléchir. Nous avons tous entendu parler du livre du souvenir. Eh bien, mes frères, pensez à chaque nom et à chaque nom dans le livre du souvenir. C'est un livre de partenaires éternels actuels et potentiels avec Dieu. Voilà ce que c'est. Tout le monde, chaque nom est là. Seulement, ceux qui partent sont ceux qui partent de leur propre chef. Chaque nom est donc un futur partenaire potentiel et éternel de Dieu. Vos noms sont là. Mon nom y est. Laissez-le là. Ne l'effacez pas. Laissez-le là parce que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a choisis, prédestinés, appelés et justifiés. Il attend de nous glorifier juste au coin de la rue. D'accord. Maintenant, nous allons aborder brièvement la question de l'importance de notre partenariat avec Dieu pour Dieu. J'en ai parlé il y a une minute. C'est, vous savez, nous allons tourner là très rapidement. Allez au chapitre 18 de Matthieu. Je vais vous donner le récit. Tout le monde l'a entendu. J'y ai fait référence il y a une seconde, mais lisons-le quand même. Matthieu 18 et début du verset 12. J'espère que j'ai bien compris. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres pour aller sur la montagne chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il se réjouit plus de cette brebis que des 99 qui ne se sont pas égarées. De même, la volonté de votre Père qui est dans les cieux n'est pas qu'un seul de ses petits périsses. Dieu, ce partenariat avec lui est si important qu'il n'est pas prêt à en laisser un, sur 100, disons sur 100 milliards. Il n'est pas prêt à en laisser partir un seul sans essayer de le récupérer, de le rétablir, de le restaurer, de lui dire « Hé, faites partie de ce partenariat pour l'éternité ». Laissez-vous convaincre de l'importance de notre partenariat avec Dieu pour Dieu. D'accord? Un autre récit. 1 Timothée, chapitre 2 et verset 4. Rapidement, 2 et 4, où il dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ?» Cela se rattache directement aux 99 et 1. Dieu veut que tous soient sauvés. Il n'est pas disposé à dire « Bon, d'accord, oui, je ne veux pas aller là-bas. C'est trop loin. Je vais laisser tomber celui-là. » Il ne va pas faire cela. Il ne le ferait pas. Il nous promet qu'il ne le fera pas parce que c'est à ce point important que vous, nous sommes pour Dieu. Il a investi en nous. Vous êtes-vous déjà investi dans quelque chose, et puis, vous l'avez laissé tomber? Non, 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 j'ai du temps. J'ai des efforts à faire. Il dit, j'ai des finances, des investissements, et je vais tout donner. Dieu est pareil. Il a plus d'investissements. Il a de futurs êtres de Dieu potentiels, sa famille qui est en jeu. Il va faire tout ce qu'il peut, mais nous devons aussi faire tout ce que nous pouvons. Nous avons notre rôle à jouer. Un autre petit point ici, Romains 8, 9. Vous n'avez pas besoin de tourner là. Il est dit, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Si l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'est pas à lui. Reliez cela à l'agent de liaison. Si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, cela signifie que nous ne sommes pas à lui. Nous ne pouvons pas nous associer à lui tant qu'il ne nous a pas donné son Esprit. Nous sommes vraiment associés à lui. Nous pouvons commencer ce processus lorsqu'il nous appelle parce qu'il travaille avec nous, mais nous n'avons pas encore son Esprit. Lorsque nous l'aurons et que vous l'aurez, vous serez à lui. Vous êtes l'une de ses brebis. Il ne vous laissera pas partir. Il va mener un combat difficile pour vous garder à votre place jusqu'à ce que le royaume vienne. Une dernière chose. Regardez. J'ai souvent été dans Jean 10, mais c'est encore Jean 10, verset 11. Je vais le lire. Il est dit, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie. C'est dire l'importance de notre partenariat avec Dieu, la famille de Dieu. Dans ce cas, Il s'agissait de Jésus-Christ pour Jésus-Christ. Il est prêt à donner sa vie. Dans l'autre passage de l'Écriture, Jean 3, 16, nous savons à quel point c'est important pour Dieu. Dieu a donné la vie de son Fils unique pour que des partenaires éternels puissent le rejoindre dans le royaume de Dieu. Vous pensez que les partenariats sont importants pour Dieu, en fait, avec ceux qui sont les siens et avec lesquels il habite, vit et marche? Oui, réponse facile. Oui. Oui, c'est facile. C'était juste le premier groupe, les individus, les êtres avec lesquels nous nous sommes associés. Le suivant est l'Église. Trois autres questions. Avec qui sommes-nous partenaires? Nous sommes la pierre vivante que le Père a donnée à son Fils et que le Fils a gardée par la puissance de Dieu, nous liant ensemble au nom du Père, l'Église de Dieu. D'accord? Il s'agit d'abord de savoir avec qui nous nous associons. Nous avons déjà vu avec qui Jésus-Christ et le Père ont choisi de s'associer, et notre part de grâce est de les refléter. Nous devrions donc peut-être choisir de nous associer avec les mêmes personnes qu'eux. C'est une chose à laquelle il faut penser. Il n'est pas nécessaire d'y réfléchir longtemps. Encore une fois, la réponse est simple, oui. Tout comme nous n'avons pas contribué à ce que Dieu nous choisisse, frère, nous n'avons pas contribué à ce que Dieu choisisse la personne assise à côté de vous, derrière vous, devant vous, debout ici. C'était le choix de Dieu. Ne niez pas le choix de Dieu, de la personne qu'il a placée à côté de vous. Apprenez à les connaître. Établissez ce partenariat avec eux. Construisez ce partenariat avec eux. Voici une image, et je vais la peindre un peu. Dieu donne au Christ une pierre. Puis Christ pose cette pierre à l'endroit de son choix. Le processus est répété à l'infini. À chaque pierre, un agent de liaison est appliqué pour maintenir les pierres ensemble, l'Esprit de Dieu. Ni le Père ni le Fils n'ont jamais voulu qu'il y ait des vides, des espaces entre ces pierres. Si vous avez déjà construit ou empilé quoi que ce soit, sachez que plus c'est serré, plus c'est solide. Par exemple, pensez au mur occidental, qui est toujours debout à Jérusalem, je crois, et à certaines de ces pierres massives. Vous vous dites, une pierre massive peut avoir un espace entre elles. Ce n'est pas le cas. Eh bien, il n'y a pas d'espace entre ces pierres. C'est dire à quel point elles sont serrées. C'était un temple physique. Nous sommes le temple spirituel, alors devinez à quel point nos liens devraient être, doivent être, sont plus étroits, beaucoup plus serrés que les pierres de ce temple physique. Passons donc au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 4. Reprenez le haut verset 16. C'est de là que vient le corps entier, bien uni et compact, grâce à ce que chaque jointure fournit, selon l'efficacité de chaque partie, et qui fait croître le corps pour son édification dans la charité. Chaque partie, chaque pierre est bien jointe, comprimée. Nous n'avons pas la place, même si nous avions le désir de nous tourner et de courir, parce que nous sommes tellement bien placés. De toute façon, nous ne nous tournerions pas et nous ne courrions pas. Mais c'est ainsi que Dieu construit ce temple spirituel. C'est ainsi que Christ nous sert de près, que nous devons rester serrés, et même nous serrer de plus en plus. Encore plus serrés. Premier chapitre des Corinthiens, chapitre 12, s'il vous plaît. Premier Corinthiens, chapitre 12, et verset 25. Première Corinthienne, chapitre 12, verset 25. Qu'il n'y ait pas de schisme dans le corps, mais que les membres aient les mêmes soins les uns pour les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Pas de schisme, Pas de fossé. Il n'y a pas d'espace. Pensez à, vous savez, si vous avez des objets solides, et que vous tapez d'un côté, vous pouvez le sentir de l'autre côté. Lorsque l'un de ces blocs, l'une de ces pierres ressent quelque chose, ils le ressentent tous jusqu'à l'autre extrémité. S'il s'agit d'un sentiment positif, nous nous sentons bien. Si c'est un sentiment de tristesse, nous sommes tous tristes. C'est cela l'unité. S'il y a une faille, elle se brise. Et ceux qui se trouvent de l'autre côté de cette brèche ne ressentent rien, ne peuvent rien ressentir. En tant que pierre vivante, Dieu ne veut pas qu'il y ait de vide entre nous. En tant que pierre vivante, vous savez, à cause de cet ajustement serré, Christ a promis que même les portes de la tombe ne pourraient pas détruire cet édifice, ce partenariat. Il ne peut pas le faire parce qu'il est étroitement soudé, bien ajusté, proche l'un de l'autre, et de plus en plus proche, de plus en plus serré, de plus en plus forte au fur et à mesure que nous ajoutons cet agent de liaison, l'Esprit de Dieu. J'ai ajouté ceci. Il y en a eu plusieurs récemment dans l'Église, alors je vais en parler. Un autre partenariat entre les frères, le mariage. Il y a eu plusieurs mariages dans l'Église récemment. Merveilleux. Nous allons donc faire vite. Matthieu 19, reprenez au verset 4. Il s'agit d'un partenariat. Ne vous y trompez pas. Il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait au commencement, encore une fois, avant la fondation du monde, les a faits hommes et femmes et a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, s'associera, s'unira étroitement à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce sont deux pierres que Dieu a réunies. Il a dit, restez ensemble, personne ne peut vous séparer. Aucun homme ne peut le faire. C'est une autre forme de partenariat entre les frères. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de partenariat entre frères. J'en utiliserai quelques-uns tirés de l'Ancien Testament. Pensez à David et Jonathan. Je vais lire l'Écriture. Vous n'avez pas besoin de vous tourner vers elle. David et Jonathan, c'est dans, notez-le, 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 3. Reprenez-le au verset 1. Il est dit, lorsqu'il eut fini de parler à Saül, l'âme de Jonathan se lia à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme sa propre âme. Saül le prit ce jour-là et ne le laissa plus retourner dans la maison de son père. Alors Jonathan et David conclurent une alliance, parce que Jonathan l'aimait comme son âme. Ils ont fait une promesse ensemble. Ils allaient ne faire qu'un. C'est dire le lien étroit et l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre, ce partenariat, Jonathan et David. Un autre récit, le même Jonathan et David, dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1. Je vais lire la version courte. Il est dit, David dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le lien entre David et Jonathan était si étroit et si fort qu'il s'étendait au-delà de ces deux-là. David voulait faire preuve de bonté, bénir les membres de la famille de Saül en raison du partenariat qu'il avait avec Jonathan. C'est ce que peut faire un partenariat entre frères. Il peut s'étendre. Il peut amener d'autres personnes. Il se développe. C'est l'un des récits. L'autre récit est l'une de mes histoires préférées lorsque j'étais enfant, dans la Bible. Elle se trouve dans Daniel. Allez-y et tournez-la. C'est Daniel 3, verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime ces noms uniquement parce que j'ai appris à les prononcer quand j'étais petit. J'ai donc pensé que c'était assez intéressant. C'est au verset 16 de Daniel 3 que nous reprenons. Il est dit, Shadrach, Mésach et Abednego prirent la parole et dirent au roi, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas le soin de te répondre sur ce point. S'il est vrai que le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera de la main de Dieu, ô roi. De votre main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton Dieu et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Lequel d'entre eux parlait? Cela n'est pas dit. Pourrait-on imaginer une personne se disant, waouh, waouh, il ne parle pas pour moi, waouh, attendez une minute. Non, il parlait comme un seul homme. J'insiste toujours sur le nous, le notre, le nous. Il ne faisait qu'un, il voulait, il savait où ils allaient. Ils vont dans une fournaise ardente. Mettez-nous là-dedans. Nous ne bougerons pas. Nous allons maintenir notre partenariat avec notre Dieu. Il s'agit d'une combinaison d'exemples de partenariat entre les partenaires de Dieu et les partenaires de Dieu avec Dieu. Mésach, Shadrach et Abednego. Il fallait que je répète ces noms encore une fois. Voici maintenant le troisième groupe avec lequel nous sommes en partenariat. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, le monde. Waouh, attendez une minute, de quoi parlez-vous? Le monde. D'accord, n'est-il pas dit que nous devons sortir de ce monde pervers et mauvais? Oui, eh bien, voyons un peu où il est dit tout cela. Ensuite, allons à d'autres endroits. 1 Jean, chapitre 2. Le 1 Jean, chapitre 2, au verset 15, dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est assez clair et net. Je suis d'accord. Frères et sœurs, nous ne devons pas aimer le monde, mais nous devons aimer le monde. Il y a une différence. Pas l'amour du, mais l'amour pour. Allez à Matthieu 24, s'il vous plaît. Voyons pourquoi je dis cela. Matthieu 24, reprenez-le au verset 14. 24, 14 dans Matthieu, il est dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » Bon, eh bien, c'est une petite image qui montre que le monde est peut-être important, que toutes les nations, qui composent le monde, sont impliquées. Revenez au 1 Jean, prenez-les rapidement. 1 Jean, chapitre 2. Le même 1 Jean que j'ai lu, vous savez, au début, où il est dit, n'aimez pas le monde. Vous revenez en arrière, le même chapitre, mais au verset 1 et au verset 2, il est dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, et il est la propitiation, le paiement pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour les péchés du monde entier. Oh, attendez un peu. Christ n'est pas seulement mort pour nous. Oui, il est mort pour nous. Il est mort pour le monde entier. Le monde entier. Ensuite, dans le 1 Jean, allez au chapitre 4, très vite, au verset 14. 1 Jean 4, 14. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils pour qu'il soit le sauveur du monde. Frères et sœurs, nous savons aussi que Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Toute chair. En ce moment, il travaille avec ce petit troupeau de partenaires. C'est avec eux qu'il travaille maintenant, mais il travaillera avec toute chair. Il travaillera avec toute nation, Torah et toute langue. Et nous en apprenons de plus en plus à ce sujet, vous savez, semaine après semaine, depuis plus de 8 ans maintenant, nous apprenons cela. Comprenez bien que ces partenariats dont je parle, ces derniers avec le monde, sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Nous ne construisons pas de la même manière. Nous ne passons pas le même temps, et nous venons d'angles différents dans nos partenariats avec le Père en Christ et les frères. Mais ne vous y trompez pas, nous devons nous préparer, nous et le monde, à ce partenariat éternel. L'une des façons de préparer le monde, de le préparer, c'est notre apparence, nous donnons l'exemple. La façon dont nous nous présentons au monde est un exemple important pour le monde, surtout s'il sait que nous sommes dans l'Église. Comment nous nous habillons, si nos vêtements sont propres et bien rangés, nos attitudes, la façon dont nous gérons les situations. Nous ne devons pas nous comporter comme le monde. Nous sommes censés le faire à l'image de Jésus-Christ. Nous devons refléter l'attitude du Christ face à une situation. Notre langage verbal, notre façon de parler. Le monde a un langage horrible de nos jours. Le simple fait d'utiliser un langage correct, que ce soit l'anglais et que vous soyez dans un pays anglophone ou n'importe quel autre, utiliser le langage correct d'une nation vous permet de vous démarquer. Le langage corporel vous distingue. Notre joie, notre humour, notre rire, le monde n'a pas cet humour et ce rire. On se moque des gens, on ne rit pas avec eux. Il y a une différence. Nous voulons rire avec nos partenaires. Apprenez à nos futurs partenaires à rire, à être joyeux. La patience. On dirait presque que ce mot a été retiré du dictionnaire pour le monde entier. Il n'y a plus de patience dans le monde. Pensez-vous que le fait que nous fassions preuve d'un peu de patience dans le monde pourrait enseigner au monde, le préparer à ce qui va arriver? Simplement en faisant de l'observation en tête à tête. J'espère qu'ils sont attentifs, j'espère qu'ils voient comment quelqu'un d'autre agit, comment quelqu'un d'autre gère une situation. Enfin, le dernier élément dont je parle, et que je vais développer, est l'espoir. C'est l'espoir. Passez à 1 Pierre 3, 15, s'il vous plaît. Parlez davantage de cette espérance. 1 Pierre 3, 15. 1 Pierre 3, 15 dit, « Mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs et soyez toujours prêts à répondre à tout homme, je répète, à tout homme qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Nous devons le faire avec douceur et crainte. Qui ici aimerait que les membres de sa famille, ses collègues de travail, ses amis viennent lui poser des questions sur l'Église, sur ses croyances? Qui aimerait? Moi, je le ferai. Je le ferai. L'Écriture sainte vous dit comment faire pour qu'il le fasse. Laissez-les voir votre espoir. Cela les incitera à se demander pourquoi vous avez tant d'espoir. Émettez les autres mots que j'utilise. Pourquoi êtes-vous si plein de joie? Pourquoi êtes-vous si aimant? Pourquoi êtes-vous si patient? Comment gardez-vous l'espoir dans ce monde? Eh bien, voici comment, laissez-moi vous le dire. Une petite mise en garde s'impose, il faut être prêt à donner une réponse. Je l'ai mentionné à plusieurs reprises à différentes personnes. Les chrétiens ne jouent pas au Jeopardy spirituel, vous connaissez le jeu télévisé Jeopardy où la réponse vient avant la question? Nous devons être prêts à donner une réponse une fois qu'on nous a posé la question, et si possible, cette question est l'espoir. Pourquoi êtes-vous si optimiste? Soyez prêts à répondre à cette question. Mais, frères, par nos exemples de vie, nous augmenterons les chances que de futurs membres partenaires êtres de Dieu potentiels sortent de ce monde. Cela dépend de moi, de vous, de nous. Comment nous présentons-nous dans le monde? Comment le monde nous perçoit-il? Parce que nous préparons le monde en ce moment même à son futur partenariat éternel potentiel. Très bien. Première question posée. J'ai pris beaucoup de notes. Je dois en couper quelques-unes. Comment construire des partenariats? D'accord. Le maintien, encore une fois avec Dieu, le maintien de notre partenariat avec Dieu. Vous voyez? Regardez Luc 21, 19, s'il vous plaît. Luc 21, 19. Luc 21, 19. Dans votre patience, possédez votre âme, votre vie. La patience, l'attente de Dieu. Dans quelle mesure Dieu a-t-il été patient avec nous depuis avant la fondation de la terre? Nous pouvons être patients pour la venue de Dieu. Il a été extrêmement patient pour que nous répondions à son appel, pour que nous naissions même à un moment qu'il avait prédestiné. Patience donc. Psaume 27, s'il vous plaît. Psaume 27. 27 et le verset 14. Attendez le Seigneur. Ayez bon courage et il fortifiera votre cœur. Attendez, je vous le dis, le Seigneur. Encore une fois, attendez le Seigneur. Ne soyez pas impatient. Ne soyez pas impatient. Pensez que si vous avez attendu quelqu'un, par exemple, si vous allez chercher quelqu'un et que vous l'attendez toujours et que vous, d'accord, je vous attends, vous êtes habituellement en retard, par exemple. La seule fois où l'on vous attend, vous vous sentez dépassé. Comment peuvent-ils me faire attendre? Eh bien, Dieu nous a attendus. Non. Et il n'est pas. Il vient. Lui et son fils viennent. Le royaume arrive. Nous devons simplement continuer à endurer, à faire preuve de patience et à attendre Dieu. Une autre façon de maintenir notre partenariat, mes frères, est de garder les commandements. Passez au chapitre 2 de la première Jean. 1 Jean, chapitre 2, nous reprendrons au verset 3. 1 Jean, chapitre 2, nous reprenons au verset 3. Nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je le connais, et qui ne garde pas son commandement, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais quiconque garde sa parole, c'est en lui que l'amour de Dieu est vraiment parfait. C'est ainsi que nous savons que nous sommes en lui. Oh, attendez, en lui. Associés à Dieu si nous gardons ses commandements. Nous savons que nous sommes censés garder les commandements de Dieu. Chacun d'entre eux. Je vais en garder 9 sur 10. Non, les 10. Mais Christ dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Frères et sœurs, nous sommes ceux qui peuvent appeler Jésus-Christ Seigneur, Seigneur, parce que nous faisons ce qu'il dit. Nous observons tous les commandements de Dieu. D'accord? Une autre façon de maintenir ce partenariat avec Dieu et de le développer, c'est la foi. C'est la foi. Passez rapidement au chapitre 3 d'Amos. Je n'avais jamais regardé Amos, cet écrit, sous cet angle jusqu'à ce que je le voie ici tout récemment. Le voici. Amos 3, au verset 3, deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Eh bien, il est question de marcher ensemble, de partenaires. C'est un autre passage qui parle de la marche avec Dieu. Mais pensez à être d'accord. Si vous êtes d'accord avec quelqu'un, c'est que vous croyez la même chose. L'une des définitions de la foi est la croyance. Alors, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble, disons, nous deux nous avec la divinité, si nous n'avons pas la foi, si nous ne sommes pas d'accord avec Dieu? Pensez à Abram à l'époque. Prenez votre voiture et partez. Sortez de votre allée, Abram, et prenez à gauche. Je veux sortir et aller à droite. Non, 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 vous allez marcher avec moi. Alors croyez-moi, vous devez sortir et aller à gauche. Eh bien, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons croire ce que Dieu dit et avoir foi en ce qu'il dit, qu'il va nous fournir, relier tous ces différents points ensemble, qu'il ne va pas nous laisser dans l'expectative, manquer de quoi que ce soit si nous avons cette foi. Encore une fois, Hébreux 11, 6. Je vais le lire rapidement. Il est dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi, si nous ne le croyons pas. Pensez à vos enfants. Si vos enfants ne croient pas ce que vous dites, cela vous plaît-il? Non. Et cela ne plaît pas non plus à notre Père. Vous devez le croire. Lui faire confiance. Avoir cette foi. Romains 10, verset 17. J'essaie de les faire coïncider, donc je vais me nourrir l'un de l'autre. Romains 10 et verset 17. Comme je l'ai dit, c'est ainsi que nous maintenons et construisons ce partenariat, et ce point concerne la foi. Il est dit, ainsi la foi, la croyance, vient de l'ouïe et l'ouïe de la parole de Dieu. Devinez ce que nous avons appris dans la semainette. Devinez ce que nous avons appris dans ce message. Nous avons acquis la foi parce que nous avons entendu la parole de Dieu. La foi vient en entendant, par la parole de Dieu. C'est cela construire, c'est maintenir notre partenariat avec Dieu. Un autre moyen, vous savez, rapide, je n'irai pas jusqu'à l'écriture ici. Un moyen facile. Demandez à Dieu. Demandez-lui. Dites, Père, aidez-moi à me rapprocher de vous. Montrez-moi tout schisme que j'ai avec vous. Aidez-moi à combler ce fossé. Donnez-moi plus de votre esprit, Père, pour combler mes lacunes avec vous. Demandez-lui. Vous savez, l'Écriture qui dit de chercher, de demander et de frapper. Il vous donnera. Il suffit de demander. Et puis il y a encore la grâce. Je peux utiliser la grâce pour chacun d'entre eux. Il s'agit de l'influence divine sur nos cœurs et de son reflet dans nos vies. Si vous faites cela, devinez quoi? Cela va construire, maintenir et développer notre partenariat avec Dieu. Maintenant, avec les frères. Maintenir ce partenariat avec les frères. Passez au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Reprenez au verset 1. Philippiens 2, verset 1. Rappelez-vous, il s'agit de maintenir et de construire ce partenariat avec les frères, l'Église. Si donc il y a quelque consolation en Christ, quelque consolation de l'amour, quelque communion de l'Esprit, quelques entrailles et quelques miséricordes, comblez ma joie en ayant les mêmes sentiments, en ayant le même amour, en étant d'un même accord, d'un même esprit. Que l'on ne fasse rien par querelle ou par vaine gloire, mais que chacun s'estime supérieur à soi-même dans la modestie de l'esprit. Que chacun ne s'occupe pas de ses propres affaires, mais que chacun s'occupe aussi des affaires d'autrui. Cela couvre tellement de choses sur la façon de construire et de développer, de maintenir nos propres partenariats les uns avec les autres. Il est question ici d'un même accord, d'un même esprit, d'une même mentalité. Cela met l'accent sur le fait d'être ensemble. Des liens étroits, des relations post-jointes. Ensuite, il est question de mieux estimer les autres. Ils peuvent dire, oui, vous pouvez faire cela mieux que moi. Quelle est l'une de ces choses? Être capable d'enseigner et d'être enseignable. Apprenez-moi à faire ce que vous savez faire. Je suis étonné de ce que vous pouvez faire. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un vienne vous faire un compliment? Par exemple, vous faites cela très bien. Voulez-vous m'apprendre? Et vous vous dites, bien sûr. C'est bien d'entendre quelqu'un le reconnaître. Vous les estimez davantage. Vous les levez. Vous les aidez à se sentir bien. Vous leur apportez de la joie. Vous resserrez le lien entre vous et eux. Vous parlez de regarder les choses d'autrui. Vous pouvez dire que quelqu'un a besoin de quelque chose. Oui, nous pouvons aider à répondre à ce besoin, mais nous pouvons aussi nous intéresser aux besoins de quelqu'un d'autre, à quelque chose qu'il sait faire. Reconnaissez-le. Vous pouvez considérer que quelqu'un a besoin de quelque chose ou que quelqu'un est capable de donner quelque chose, d'enseigner et d'être enseignable. Nous pouvons tous, nous devrions tous comprendre que nous devons être enseignables, mais nous devrions aussi apprendre à enseigner. Et cela, au sein d'un partenariat, le rend plus étroit, plus fort. Dans le cadre d'un partenariat avec un frère, n'hésitez pas à vous mettre en avant. Le dîner dansant aura lieu dans quelques jours. Mesdames, vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Il est parfois un peu stressant pour les hommes de vous inviter à danser. Ils se mettent en avant. Hommes, comprenez que les femmes veulent être invitées à danser. Mettez-vous en avant. C'est cela. Vous savez, construire des relations, être, vous savez, se rapprocher les uns des autres. Créer des liens. Trouver des intérêts similaires. Quel bon moment ici à la fête. Trouver des intérêts similaires. Participer les uns avec les autres. Soyez à l'écoute. Cultivez l'amour fraternel qui est partout sur le sol, sur vos chaises, sur vous. Cultivez-le. Faites en sorte qu'il y en ait davantage. Et du temps. La quantité, c'est bien, mais la qualité, c'est mieux. Passez ce temps. Comment pouvez-vous le faire ici, à la fête? C'est l'hôtel le plus convivial, je dirais même le plus convivial, le plus convivial, le plus convivial, le plus convivial que j'ai jamais vu. Je l'ai vu en 21 lorsque j'étais ici, et j'avais tellement hâte, rien que pour l'espace petit déjeuner. C'est merveilleux. Maintenant, si vous êtes là à cette heure précise tous les jours, changez de programme. Arrivez à 8 heures. Vous verrez un tout nouveau groupe de personnes avec lesquelles vous ne vous êtes pas encore assis. Si vous arrivez et que vous voyez une table avec une chaise vide, assurez-vous que c'est pour l'église. Et, je peux me joindre à vous? Si vous voyez quelqu'un se promener, vous devez. Venez nous rejoindre. Construisez ces partenariats. Les sorties, les activités, l'heure de convivialité, profitez-en. Mettez-vous en avant. C'est votre famille. Apprenez à la connaître. J'ai tellement hâte d'arriver, oh, j'ai été transféré tardivement ici. J'étais comme, oh, merveilleux. Je vois des gens que j'ai déjà vus. Je vais voir des gens que je n'ai jamais vus. Et puis je peux grandir, j'espère construire de meilleurs partenariats avec tout le monde. J'aime cet endroit. Je vous aime tous. Profitez-en. S'il vous plaît. Profitez-en. Enfin, dernier point. Préparation de notre partenariat. Vite fait, pas le dernier. Préparation du partenariat avec le monde. C'est très court. Quelques points, encore une fois, la grâce, autant que nous reflétons Jésus-Christ dans nos vies, nous reflétons le Père, le monde le voit. Il ne sait peut-être pas ce qu'il voit. Il le fera. Et quand ils apprendront ce que c'est, ils diront, ah, c'est pour cela qu'il faisait cela. Cela rendra les choses tellement plus faciles. Pensez à votre famille avec laquelle vous avez un partenariat et qui n'est pas dans l'Église. Ils apprendront pourquoi vous faites tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. N'arrêtez pas de le faire. Faites-le encore mieux. Apportez-y plus de joie. Nous ne voyons pas les changements en nous-mêmes aussi facilement que les autres l'y voient en nous. Cela fonctionne avec tout le monde. Nous pouvons voir nos changements et notre croissance. Les autres le voient avant nous. Votre famille voit, vos collègues voient des changements en vous que vous ne voyez pas encore. Et ils sont étonnés. Ils sont parfois étonnés qu'ils fassent cela. Étonnant qu'ils le fassent. Ils ont des attitudes différentes. Ils auront la bonne attitude à un moment donné. Être irréprochable. Faire ce que nous sommes censés faire. Ne prenez pas de raccourcis. Étudiez pour vous montrer approuvé afin de pouvoir donner une réponse lorsqu'on vous le demande. Comprenez que la réponse est parfois « je ne sais pas ». Je le dis souvent. Je ne sais pas. Le site web est une excellente source à laquelle les envoyer. C'est le monde. C'est aussi le cas des frères. Les frères, envoyez-les au ministre. Mais il s'agit ici du monde. Dernière question. Pourquoi construisons-nous les partenariats aujourd'hui? Pourquoi? Je pense que nous le savons tous, mais voyons quelques passages bibliques. Regardez le chapitre 21 de l'Apocalypse. Pourquoi construisons-nous ces partenariats éternels aujourd'hui? Ensuite, vous vous concentrez encore plus sur la fétissière Rogers, Hackensau. Pourquoi? Apocalypse 21 est commencé par le premier verset. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, où le premier ciel et la première terre avaient disparu, et où il n'y avait plus de semences. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son mari. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de chagrin ni de cri. Il n'y aura plus de douleur, car les choses passées ont disparu. C'est dans peu de temps. Certes, c'est dans le royaume, mais le début de ce royaume est tout proche. Réjouissez-vous. La fête est l'occasion d'accroître cette excitation chaque année et de la faire durer. Lisez les différentes écritures. Il y en a tellement dans la Bible. Allez maintenant à Jérémie 31, s'il vous plaît. Sautez un peu d'un endroit à l'autre. Jérémie 31, commencez au verset 33. Jérémie 31, 33, voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus à chacun son prochain et à chacun son frère à connaître le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit le Seigneur. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il y a un moment dans le royaume où nous n'aurons plus besoin d'aller enseigner qui est Dieu. Ils le sauront. Dieu aura répandu son esprit sur une fois de plus, toute la chair, tous ses partenaires, et tout le monde connaîtra Dieu. Toute créature vivante et originale connaîtra Dieu. Allons à Ésaïe. Ésaïe 40, chapitre 40, s'il vous plaît, et verset 31. Ésaïe 40 et verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront sur des ailes comme des aigles. Ils s'élèveront avec des ailes d'aigle. Ils courront sans se lasser, ils marcheront sans se fatiguer. Combien de choses avons-nous apprises sur ce qui est dit dans ce texte au cours des dernières semaines? C'est une image. L'image de nous. C'est l'image de tout partenaire éternel de Dieu. À un moment donné, tous ceux qui entreront dans le royaume de Dieu, qui en hériteront, ressembleront à cela. Il s'élèvera avec des ailes d'aigle. Vous marchez sans faiblir, vous avez toute puissance. Comme c'est excitant. Et nous sommes ici à la fête pour nous réjouir de cette connaissance et pour développer ces partenariats avec Dieu, les uns avec les autres, et nous préparer à apprendre comment enseigner au monde. Utilisons-en un autre ici. Retournez au chapitre 3 du 1er Jean. Reprenez-le au premier verset. 1er Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés fils de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant les fils de Dieu et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que, lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et tout homme qui a cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Une autre promesse de Dieu. Fils de Dieu, héritier avec Jésus-Christ dans le royaume. Des maîtres pour tous les êtres humains à venir, jusqu'à ce qu'ils deviennent des partenaires éternels héritants du royaume de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous a d'abord choisis dès la fondation de la terre. Il a fait sa part. C'est à notre tour de veiller à ce que nous fassions notre part. Pensez à cette grâce, au fait d'être ce miroir, ce reflet. C'est ce que nous devons faire. C'est à nous de choisir de rester dans les partenariats. Dieu dit, « Je vais m'associer avec. J'irai vous chercher jusqu'au bout du monde. Je ne vous abandonne pas. » C'est à nous de choisir si nous restons dans ce partenariat. Rester dans le partenariat. Choisir de s'associer au partenaire de Dieu, c'est choisir de s'associer à Dieu. Le partenaire de mon partenaire est mon partenaire. Comprenez-le ainsi. Le partenaire de mon partenaire est mon partenaire. La fête des tabernacles est la meilleure occasion de s'associer au partenaire de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes choisies par le Père, utilisées par Christ pour collaborer, partager, s'associer, participer avec eux, les uns avec les autres, et finalement avec chaque prédicateur original. C'est notre avenir. C'est notre présent. N'attendez pas. Profitez-en. Agissez. Nous écoutons. Notre foi grandit. C'est une bonne chose. Mais ce qui est le mieux, c'est de prendre ce que l'on entend, de prendre cette foi et d'agir. Une dernière série d'écritures. Passez au psaume. Psaume 33. Nous commençons à conclure. Nous reprenons au premier verset, le premier verset. Psaume 1 à 3 à 3, 1. Vous êtes rapide. Voici. Comme il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. C'est comme l'onguent précieux sur la tête, qui a coulé sur la barbe d'Aaron, et qui est descendu jusqu'au pan de son vêtement, comme la rosée de l'Hermon et comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur a ordonné la bénédiction, la vie éternelle. Chers frères, comme il est agréable aujourd'hui et comme il sera agréable de demeurer pour l'éternité les uns avec les autres, je pense que si vous pouvez dire, d'accord, la personne assise à côté de vous, vous avez un siège éternel juste là. C'est votre place. Nous allons le garder pour vous pour l'éternité, c'est votre siège. Maintenant, je vais m'asseoir à côté de vous jusqu'à ce que nous changions de place et que nous fassions connaissance avec quelqu'un d'autre, en nous déplaçant. C'est une autre chose. Essayez de vous asseoir ailleurs pour apprendre à connaître d'autres personnes. Pour apprendre comment ce partenariat. Et tout le monde est différent. Les partenariats ne sont pas à l'emporte-pièce. J'espère que nous l'avons vu. Il y a différentes façons de s'associer à Dieu. Il y a différentes façons de s'associer avec l'Église. Il y a différentes façons de se préparer à collaborer et à enseigner au monde. Si une méthode ne fonctionne pas, il y en a une autre qui fonctionne. Nous ne devons jamais cesser de rechercher ces partenariats éternels. Pensez-y vraiment. Un partenariat éternel. Nous n'avons jamais connu cela. Nous avons eu des partenariats, des mariages. Le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne vais pas faire une blague. Cet humour pourrait ne pas être, il pourrait tomber à plat. Mais il s'agit de partenariats qui doivent durer un certain temps. Et s'il n'y a pas de fin des temps, c'est ce qu'est un partenariat éternel, c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. C'est la raison pour laquelle il nous a connus à l'avance, prédestinés, appelés, justifiés, et il nous attend. Nous devons donc l'attendre jusqu'à ce qu'il nous glorifie. Frères et sœurs, saisissez, saisissez, s'il vous plaît, saisissez cette occasion ici à la fête des tabernacles. Ne restez pas dans vos chambres. Ne dites pas que vous aimeriez participer à l'une des activités. Il y a des moyens d'y aller. C'est très important. L'Église, depuis des semaines, dans les annonces, j'ai décrit, nous voulons que tout le monde y aille, que tout le monde trouve un moyen d'y aller. Assurez-vous d'être présent à chaque événement. Assurez-vous de participer à chaque événement. Assurez-vous de partager cette joie. Veillez à vous associer aux frères. Assurez-vous, frères, que vous construisez des partenariats aujourd'hui, demain, tout au long de cette fête, tout au long de l'éternité, parce que, comme je l'ai dit, nous ne construisons pas seulement des partenariats, nous construisons des partenariats éternels.